Alors bonjour et merci de nous recevoir à la Cour administrative d'appel de Lyon pour répondre à nos questions dans le cadre du partenariat entre la Cour et la clinique juridique de l'Université Jean Moulin Lyon 3. Alors tout d'abord, est-ce que vous pourriez en quelques mots vous présenter ?
Christian Hombert, je suis expert auprès de la Cour d'appel de Lyon et expert auprès de la Cour administrative d'appel de Lyon.
Mes spécialités sont les travaux publics, voirie, réseaux divers, génie urbain, urbanisme.
D'accord.
Donc dans les réseaux divers, la thématique de l'eau potable et la thématique de l'assainissement.
Très bien. Alors, pour arriver à ce métier, quelle a été votre formation et votre parcours antérieur ?
Alors, je vais poser un postulat. C'est que expert de justice, ce n'est pas un métier. Je qualifierais ça d'une sorte d'aboutissement d'une carrière professionnelle où, quelque part, on va essayer de crever le plafond de verre. Je le présente comme ça parce que faut vraisemblablement, sûrement, avoir atteint la maturité professionnelle. C'est important par rapport au vécu professionnel, ou par rapport au savoir professionnel dans son métier qu'on a pu accumuler. Donc il faut du métier derrière soi. Ce qui n'exclut pas qu'on puisse être expert de justice sur des métiers émergents. Parce que cette qualification professionnelle s'acquiert beaucoup plus vite. Je vais penser aux métiers qui vont traiter de la dématérialisation, des métiers qui vont tourner autour de l'informatique. Parce que c'est une mission de contact. D'ailleurs, les contacts judiciaires on joue les hommes à chaque fois. On n'a pas de l'intelligence artificielle en face de soi, on a des gens. Donc ça veut dire qu'il faut aussi sans doute avoir et développer des qualités relationnelles. Donc c'est le deuxième point. Et le troisième point, je ne qualifierais pas vouloir participer ou faire œuvre de justice, mais c'est avoir l'envie d'apporter au système judiciaire cette plénitude, cette compétence qui est codifiée finalement, qui s'appelle être expert de justice. Alors après, on peut être bon expert ou moins bon expert. Voilà. Donc c'est ça qui fait l'expert de justice. Voilà. Donc il n'y a pas un expert de justice, il y a des experts de justice. Il y a autant d'experts de justice qu'on va avoir de métiers sources. Donc nous, on évolue dans ce qu'on appelle une nomenclature. Donc on va avoir la nomenclature du bâtiment travaux publics, dont je relève. On va avoir la nomenclature de la médecine. On va avoir la nomenclature du chiffre comptabilité. On va avoir la nomenclature de l'environnement, des métiers de la santé, des métiers de l'agriculture, la nomenclature de l'élevage. On va avoir autant d'experts qui vont représenter ces catégories de métiers. Parce qu'après, à l'intérieur de la nomenclature, on va avoir les spécialistes. Dans la rubrique du BTP, on va trouver les architectes. Voilà. Moi, c'est plutôt l'horizontal, c'est le vertical.
Voilà. D'accord. Et donc, vous, votre métier, indépendamment de cette qualité d'expert, quel est-il ?
Eh bien, moi, je suis rentré dans l'administration, donc j'étais fonctionnaire d'État, et j'ai passé tous les concours de la hiérarchie de la fonction publique d'État. J'ai démarré ma carrière dans un ministère technique. J'ai participé à ce qu'on appelle la mobilité, et à un moment donné dans ma carrière, j'ai basculé en collectivité territoriale. Ça veut dire que j'étais, je dirais, du côté de l'État régalien qui, chacun à sa place, dit aux autres ce qu'il faut faire. Et puis, il se trouve que j'ai eu des fonctions territoriales. Donc moi, j'étais en contact et avec le public et avec des élus, avec des maires ruraux, etc. Je suis passé à un moment donné, pendant 10 années, de l'autre côté. Où j'ai été mis à disposition, donc, sur une collectivité territoriale. Quand j'ai réintégré mon ministère d'origine, mon corps technique support avait disparu ou était en voie de disparition. Et comme je voulais continuer à apporter ce que j'avais accumulé en 2/3 de carrière professionnelle, j'ai créé une activité d'aménagement du territoire Donc j'ai créé une structure d'aménagement du territoire et d'urbanisme. Je suis devenu expert, je ne vais pas dire par cooptation, en croisant quelqu'un dans un dossier qui m'a convaincu qu'avec l'état d'esprit que j'avais, je réunissais les caractéristiques pour devenir expert de justice. Et il y a 13 ou 14 ans de ça en arrière, je ne savais pas ce que c'était. Donc je lui dois ça. Il avait décelé dans mon comportement un certain nombre d'indicateurs qui pensaient que je pouvais devenir un bon expert de justice.
D'accord. Et justement, parce que nous, on ne connaît pas vraiment en quoi consiste l'activité d'un expert, est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu vos principales missions ?
Alors, quel inconnu cet expert de justice ? L'expert de justice, d'une façon générale, on ne parle pas de lui. On ne parle pas de lui parce qu'il est auxiliaire de justice, il n'a pas droit à la publicité, elle nous est interdite, ce n'est pas un métier, et pourtant c'est un personnage important. On en entend parler. Alors on va distinguer deux catégories d'experts de justice, celui qui intervient au judiciaire et au pénal, et celui qui intervient à l'administratif. Dans 99% des cas, ceux qui interviennent à l'administratif interviennent déjà au judiciaire. Parce que on ne peut pas devenir un bon expert administratif si on n'a pas déjà du passif et du passé au judiciaire. Alors ce n'est pas un critère de choix pour être inscrit sur la liste des experts. Donc à l'administratif, on appelle ça le tableau. Au judiciaire, on appelle ça la liste. Ce n'est pas un critère de relever d'une liste du judiciaire pour être au tableau. Est-ce que ça répond à la...
Oui, ça répond. Et donc vos tâches principales, par exemple, dans un litige...
Alors les tâches principales. L'expert, on dira qu'il est les yeux et les oreilles du juge. Parce que dans le processus des décisions judiciaires, notamment sur le processus de référé, je vais être trivial. Il y a un référé, vous savez ce que c'est ? Je vais charrier un peu le juge, il va dire, avec ses avocats, il va dire, moi, je ne peux pas répondre à la question, je ne suis pas compétent, je vais désigner un expert. Et parfois, c'est telle ou telle assignation, où c'est la partie, l'avocat, le conseil, qui demande qu'il y ait désignation d'un expert. Parce qu'il sait très bien que... il faut un éclairage technique. Donc l'expert ne dit pas le droit, lui répond à un ordre de mission où le juge va lui poser 4, 5, 6, 8, 10 questions. Alors, il y a une méthodologie, mais il y a un transfert, je dirais, sur les épaules de l'expert. Ça veut dire que le temps judiciaire ne s'interrompt pas, mais la procédure se suspend à l'ordonnance où on désigne l'expert. Quand il a accepté sa mission, c'est lui qui mène les opérations. Il a tous les pouvoirs. Il a le code pour lui. Et à l'administratif, l'expert a la faculté, passé un délai de 2 mois, de faire venir telle ou telle partie. Parce qu'il se rend compte dans ses travaux qu'il manque un élément, il manque une partie, où il découvre qu'on ne lui a pas tout à fait tout dit, etc. Il a la faculté d'entendre tout sachant utile. Bon, moi, dans ma partie, je peux faire venir à une réunion d'expertise tel ancien maire ou tel adjoint aux travaux, parce qu'à un moment donné, il était aux affaires, pour qu'il dise devant tout le monde ce qui s'est passé. Parce que tout ne s'écrit pas forcément tout ne s'est pas forcément écrit. Et il y a un sachant quelque part, il est là, il dit ce qu'il sait, point. Bon, donc ça veut dire que l'expert, lui, va convoquer ses parties. À l'administratif, donc il va convoquer ses parties que le juge lui aura mis dans l'ordonnance. Et il va conduire ses opérations en écoutant le demandeur, en écoutant le ou les défendeurs. Il va faire autant de réunions que nécessaire pour comprendre. Parce que ce qu'il faut bien voir, c'est que l'expert, quand il arrive, les parties peuvent avoir 1 à 2 années d'avance sur lui. Parce qu'ils sont déjà dans le conflit. Et souvent, ils n'ont pas réussi à le régler à l'amiable. Parce que la première démarche, c'est la démarche d'assurance. Donc l'expert a une règle à respecter sur la convocation des parties, pourvu qu'il justifie qu'il a bien convoqué les parties. Si une partie à l'administratif est défaillante, l'expertise se poursuit sans elle, à ses torts exclusifs. Il va solliciter le juge, s'il est nécessaire, de mettre en œuvre des mesures techniques, parce que l'expert lui-même peut s'adjoindre ce qu'on appelle un assistant technique ou un sapiteur. Les ordonnances sont quand même bien rédigées, donc quand on accepte sa mission, il faut bien le lire, être sûr qu'on est capable de la conduire. Ça, c'est la première chose. être sûr qu'on est capable de répondre dans le délai. Il va conduire les investigations techniques, typiquement dans mon métier. Moi, ce tuyau est déficient. Je ne sais pas de quoi il est déficient. Je vais être amené à faire une, par exemple, une inspection télévisuelle. Donc, je vais requérir un assistant technique, il va y avoir un coût. À ce coût, je suis obligé d'en demander le cautionnement. Parce que moi, je vais engager un tiers qui va faire une intervention. En même temps, je dois me porter garant qu'il sera payé. Et puis, in fine, s'ils vont au fond ou s'ils concilient avant, de toute façon, tous les dépens de l'instance jusqu'au jour de l'acte, il faudra même que quelqu'un les paye. L'assurance d'une partie, l'assurance d'une autre, ou une personne physique, ou une personne morale, peu importe. Mais si on a fait engager une dépense, il faut qu'on s'assure que celui qui est au bout sera aussi payé. Voilà. Donc l'expert, il doit gérer tout ça. L'expert de justice doit rester totalement indépendant de ses parties. Donc ça veut dire que si à un moment ou à un autre, il a eu connaissance d'un élément de la cause, s'il est partie liée d'un grain de quoi que ce soit, avec qui que ce soit autour de la table, sauf s'il le découvre en cours de route, parce que ça peut arriver, en lisant sa mission, il se déporte. Ça ne lui fait pas ombrage. C'est qu'il a une honnêteté, il doit pousser son honnêteté, ne pas accepter cette mission. Parce que l'accepter, c'est courir le risque éventuellement. Il y a une partie avec son conseil, il laisse bien arriver au bout. Et arriver à l'annulation du rapport, parce qu'on aura un soupçon de collusion. Donc, on ne peut pas se permettre ça. Voilà. Donc vous voyez, la plénitude, la rigueur intellectuelle, bon, là c'est... Voilà. Et l'opération d'expertise continue de se dérouler. Le juge pose des questions techniques à l'expert et lui demande son avis. On répond à chacune des questions techniques. On nous demande des responsabilités, parce qu'on peut avoir des responsabilités multiples. L'expérience montre, avec ce travail qu'on fait avec les juges, c'est qu'en fait, ce qu'ils attendent, c'est que l'expert se positionne. C'est où je prends cette solution, où je prends cette solution, et on nous répond, de toute façon, on vous suivra, pourvu qu'elle soit argumentée, motivée. L'expert va conduire son travail. À l'administratif, le pré-rapport n'existe pas. Au judiciaire, on fait ce qu'on appelle un pré-rapport. Le rapport vient importer des réponses au dire. On a une obligation de répondre au dire ou observation des avocats. Pareil, on doit prendre position. Oui, non, je ne partage pas, maître. Et on va rédiger son rapport et on va déposer son rapport. Voilà. Donc tout ça, c'est codifié, le contenu du rapport, les relations avec tout le monde sont codifiées. L'expert doit veiller du premier jour d'acceptation de sa mission au jour du rapport déposé à veiller au contradictoire. C'est le premier, élément qu'on donne à la formation et qu'on ressasse sans arrêt. Ça veut dire que quand il arrive en expertise, c'est le dernier qui sort de la voiture, c'est le premier qui monte dedans. Il ne va pas discuter 10 minutes avec un avocat sur un bout de trottoir ou avec une partie. Il ne va pas boire un coup avec l'un ou l'autre quand c'est terminé. Il ne reçoit aucune sollicitation directe des parties. On met tout au contradictoire. Ça m'arrive un coup de temps en temps, comme ça arrive à n'importe quel expert. Les consignes, c'est... Vous faites une réponse que vous diffusez en contradictoire en disant « J'ai bien pris acte de ce que vous m'avez envoyé, de ce que vous me dites. » Au même moment, vous le faites circuler à tout le monde. Donc en fait, l'expert, pendant toute la durée de la mission, il est seul. Mais il est quand même épaulé par le greffe, par le juge, en cas où. Donc voilà, c'est ça son rôle. C'est d'arriver au bout de sa mission à avoir apporté l'éclairage technique argumenter pour que le juge puisse trancher son litige.
Bah, merci beaucoup pour cet éclairage sur vos missions. Et si vous deviez citer quelques avantages de cette mission d'expert, quels seraient-ils ?
Un avantage ?
Oui.
on a, je ne vais pas dire des avantages, on devrait avoir des satisfactions. Bah, une des premières satisfactions, je l'ai dit au début, c'est d'avoir essayé d'apporter une contribution à ce qu'il y ait une justice qui soit rendue à quelque part. Si on nous a demandé notre avis, qu'on ait au moins cette satisfaction d'avoir contribué. Moi, j'en ai un personnel d'élément de satisfaction, c'est quand par retour, parce que à force, on peut recroiser tel ou tel avocat, alors c'est pas souvent tout de suite, hein, mais on a un retour de la chose jugée, de comment elle s'est jugée. À l'administratif, il y a un énorme avantage. C'est que le jugement, on le reçoit. Donc, bon, il m'est agréable d'aller lire les rapports des rapporteurs publics, parce que je trouve ça fabuleux. J'ai retrouvé des... il fait de la paraphrase, mais où elle fait de la paraphrase, en disant, comme l'a très justement indiqué l'expert, ou comme l'argumente l'expert, vous ne pouvez, quand il s'adresse au juge, vous ne pouvez pas prendre autre acte que ce qu'il écrit, voilà, donc c'est... ça fait plaisir, entre guillemets, mais ça fait plaisir, en dehors de cultiver son moi, mais ça fait plaisir de voir qu'on ne s'est pas soit trompé. Parce que c'est ça, ne pas se tromper. Parce que on ne le sait pas. Donc, entendre avoir écho de temps à autre d'une affaire qu'on a pu avoir à traiter, apporter une petite contribution, et s'apercevoir qu'on ne s'est pas trop trompé ou pas trompé, alors si ça c'est un avantage, perso qui fait que, bon, voilà, c'est on se fait plaisir.
D'accord, merci pour votre réponse. Et donc, quelles qualités faut-il avoir? Alors vous en avez un petit peu parlé avec notamment les qualités relationnelles, mais quelles qualités plus globalement faut-il avoir pour bien faire cette activité d'expert?
Je ne saurais pas les hiérarchiser, mais la première quand même, c'est d'être un bon professionnel. Vous n'avez jamais assisté à une expertise?
Non.
Il faut une qualité qui me paraît indispensable, c'est d'être sans doute passé par de la conduite de réunion en public, par de la présentation de projet en public. Je dirais, il faut une qualité de savoir prendre sur soi et d'être à l'aise. Mais celle-là, elle sous-tend une autre qualité, ou une obligation, c'est comme on veut, c'est d'avoir lu son dossier et de savoir de quoi on parle. Parce que l'étincelle, elle peut être explosive à la première réunion. Donc, si vous avez un expert qui est au bout de la table, qui a lu son dossier, qui a préparé ses notes, qui va droit au but sur ses questions, sa légitimité, son autorité, elle va être effective tout de suite. Donc, c'est une qualité qu'il faut avoir. Il faut avoir un peu d'aplomb. Savoir maîtriser ses émotions. Il ne faut pas d'empathie plus que l'empathie qu'on doit avoir pour tout le monde. Donc il faut le regarder comme une qualité, quoi. L'empathie, c'est une qualité, mais il ne faut pas qu'elle déborde. Quelqu'un qui est sur la réserve ou qui est timoré, je ne suis pas sûr que ça fasse un bon expert. Je dis comme ça. Parce qu'il va se faire mettre mal au premier argument percutant du premier avocat venu. Alors s'il faut avoir une qualité, c'est qu'il faut... pas prendre pour soi et sur soi, je dirais, quelque chose qui peut partir d'un coup. Donc là, on va gérer sa propre émotion. Voilà.
D'accord. Une question un peu différente. Est-ce que vous échangez avec les autres professionnels du droit? Et si oui, comment? Alors, notamment les magistrats.
Alors là, je vais ramener ça au niveau d'une compagnie. Un expert n'a pas obligation d'appartenir à une compagnie. Les deux représentants de la compagnie ont une qualité de rapport avec les chefs de juridiction qui est exceptionnelle. Donc on se croise là-dessus. Bah, avec les autres métiers du droit, avec les avocats, on va leur proposer de venir à telle conférence qu'on va organiser, à telle formation qu'on va organiser.
Et avec les justiciables?
Avec le justiciable, il y a... Il y a une chose sur laquelle j'insiste, je l'applique à moi-même, c'est que le justiciable, souvent, c'est l'affaire de sa vie. Le premier contact que j'ai avec le justiciable, et je l'explique en formation, je l'ai découvert en faisant de l'expertise judiciaire. Ce que je ne vous ai pas dit, finalement, ça m'a tellement passionné que j'ai passé un diplôme universitaire de droit d'expertise à la fac de droit d'Avignon. Ce que je répète souvent, certes, on fait un rapport pour le juge, mais on fait d'abord un rapport pour le justiciable. Il faut qu'il comprenne que ce qui sera décidé pour lui, à tort, à raison, etc., faut qu'il l'intègre, que c'est le résultat d'un processus, et c'est pas parce que celui-là, il avait un avocat qui gueulait plus fort que l'autre, etc., ou qu'il a payé plus cher. C'est pas ça. C'est qu'on essaie d'apporter une mise en situation, un éclairage, de mettre les gens ou la commune dans un cheminement intellectuel qui fait que, voilà, on est dans une forme d'admissibilité du résultat. Voilà. C'est ça la relation aussi qu'il faut avoir avec le justiciable.
D'accord.
Qui se mette en situation d'admettre la vérité judiciaire qui va arriver.
Ok. Et tout à l'heure, vous avez parlé de votre mission de formation.
Oui.
Alors, est-ce qu'il y a d'autres possibilités d'évolution lorsque l'on est expert ?
Alors, quand on est expert, on peut rêver de devenir président de sa compagnie de... d'experts. Mais en fait, si on résiste suffisamment longtemps au conseil d'administration, ben, je dirais, on développe tellement de relationnel entre nous. Je veux dire, j'ai parlé de crever le plafond de verre parce que ça tire vers le haut. Donc on évitera le pantouflage. Donc on a mis des limites administratives dans nos propres statuts, parce qu'on n'est pas camarade président en vie. Donc un président, par exemple, ici, nous, à la Siècle-Cali, c'est 3 ans. Après, il y a le statut de président d'honneur qui confère le droit de continuer d'être autour de table. J'ai envie de dire, c'est rentrer dans le cercle d'une certaine sagesse pour continuer de paterniser un peu les nouveaux qui rentrent, etc. Bon. Alors, ça peut s'arrêter là, et puis après, ça peut peut-être susciter l'envie, donc ça n'existe pas la liste de conseils d'État, mais peut-être de regarder du côté de la Cour de cassation.
D'accord. Et est-ce que, enfin, vous auriez des conseils pour les personnes qui souhaiteraient suivre la même voie que vous ?
Alors ça, c'est une question qui se pose souvent. Parce que c'est vrai que ça arrive. Quand on est président de compagnie, elle arrive un coup de 30 ans sur les sites internet, la question comment on fait pour être expert ? Pour être expert, il faut répondre à des besoins. Parce que je veux peut-être être le meilleur expert du monde, mais si on n'a pas besoin de moi, je ne veux pas le devenir. Ça supposera, pour être un expert, de toute façon, d'avoir du bagage professionnel. Il faut avoir envie d'être utile à la société, et puis considérer que c'est un engagement. Il y a un certain nombre d'experts qui sont en demande, pensant que l'expertise va les aider à éponger, entre guillemets, une perte d'activité civile qu'ils peuvent avoir. Non. Ça, si on est super méga expert et qu'au bout d'un moment, on peut arrêter son activité civile et qu'on a le bureau qui déborde d'ordonnances, oui, bah, peut-être. Mais bon, mais l'autre condition, c'est qu'il faut aussi tenir ses engagements de délai. C'est pas de remplir le bureau et puis que la juridiction est à 5 ans sans rapport. Ça marche pas, quoi. Bon, voilà. Donc, on peut avoir cette prétention de pouvoir le devenir, mais je crois qu'il ne faut pas s'y prendre le 1er février pour la fin du mois pour déposer son dossier. Je crois que c'est la pire des choses. Donc, le moins pire, c'est sans doute de fréquenter un expert ou d'aller en fréquenter. Peut-être que j'ai envie de dire, c'est peut-être un peu comme avocat ou autre chose. Peut-être qu'il faut aller s'y frotter un peu, découvrir. Peut-être aussi que quand j'étais dans mon métier public représentant l'État, je me suis trouvé dans des opérations d'expertise. Ouais, peut-être qu'à un moment, il faut venir y toucher un peu et puis se dire, tiens, c'est peut-être bien ça, etc. Et puis, puis peut-être avoir un jour quelqu'un qui vous dise, oh, bah, toi, tu feras bien expert, sans absolument savoir ce que c'était, sur le fond, quoi.
D'accord. Eh bien, merci beaucoup pour cet échange qui sera, je pense, très enrichissant pour les étudiants qui ne connaissent certainement pas très bien votre activité. Merci.
Merci.